Radio Capi, grand témoin. Avec le même plaisir, pour le même devoir, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Il s'appelle Didier Mumengi Tshikudi. Il est historien, homme de culture, journaliste de formation, homme politique et écrivain. Didier Mumengi Tshikudi, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi, merci beaucoup.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi qui sont très nombreux à nous suivre partout en RDC et même à travers le monde. C'est vrai que Didier Mumengi, ce n'est pas un nom inconnu en RDC, mais nous, on va aller au-delà de vos fonctions politiques qui, d'ailleurs, sont à la base de cette renommée que vous avez aujourd'hui. Et d'ailleurs, avant de parler de votre parcours politique, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Ah. Radio Capi, grand témoin. Alors Didier Mumengi, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Capi. Vous êtes né à Kinshasa, un certain 23 mai 1962.
Exact.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
J'ai grandi dans les conditions d'un enfant dont le père était rebelle, qui devait s'exiler. Donc j'arrive au monde pendant que mon père partait en exil. Et par un concours de circonstances tragiques, ma mère, qui devait suivre mon père, a été arrêtée, mais elle était à terme. Donc je suis né dans des conditions de quasi-prisonnier, parce que pour faire parler ma mère, on m'a arraché de ma mère pendant que je venais au monde. Et
ça devrait pas être facile pour elle, hein. Vous parlez avec émotion, je vous sens ému, hein.
C'est même pas évident pour moi d'en parler. C'est la première fois que j'en parle sur la place publique. Donc, ma mère subissait un interrogatoire pour qu'elle dise où s'est caché mon père. Mon père qui était cousin de Pierre Moulélé, qu'ils avaient fouillé ensemble, sur mon 62. Et si je porte le nom de Didier, c'est parce que le bon de sœur, pendant qu'on m'avait mis dans la nurserie avec tous les enfants abandonnés, pour m'identifier, ils ont pris un petit morceau de linge et les bonnes sœurs ont regardé sur le calendrier les noms qu'il y avait à côté du 23 mai, c'était la Saint-Didier. Ils m'ont appelé provisoirement Didier. Et quand ils m'ont ramené à ma mère, ben, les bonnes sœurs ont dit à ma mère, en attendant que vous donniez un prénom, nous l'avons appelé tout simplement Didier parce qu'il est né le 23 mai. Et j'ai gardé ce prénom.
Et vous avez grandi sans votre père?
J'ai retrouvé mon père bien plus tard, après la première amnistie générale en 71 ou 12. C'est la première fois que j'ai revu mon père, j'avais 10 ans.
Vous l'avez revu à Kinshasa?
À Kinshasa, il est revenu après l'amnistie.
Comment vous avez vécu ce moment sans papa à la maison?
Mais comme je suis né sans mon père, donc je n'avais aucune conscience, mon grand-père était mon père. Et de toute ma vie, les mots que j'ai le moins ou quasiment pas prononcés, c'était papa.
Vous étiez quel genre d'enfant? Turbulent, timide?
Non, j'étais un enfant très introverti, très timide. Hein, ça, même en grandissant, ma mère me faisait la même observation. Pour me faire sortir de ma timidité, ma mère m'avait très tôt mis dans des arts martiaux, le sport, notamment la boxe. Et c'est là que j'ai appris la boxe était la meilleure école de la vie pour moi. Voilà. C'est là où on apprend à encaisser
et réserver. Et ça vous a aidé?
Non seulement ça m'a aidé, mais ça continue à m'aider. Je crois que la boxe est la meilleure école de la vie.
Vous avez fait quel genre d'études, Didier Mumengi?
J'ai fait les études primaires classiques. J'ai commencé à mon école qui malheureusement n'existait plus, l'Institut de Kabinda, à la commune de Kinshasa. Après, j'ai continué à Kimwenza, les études secondaires et humanitaires, pour terminer à en Banzangung, où j'ai eu mon diplôme d'État en 1980.
Quelles études littéraires?
Des études scientifiques.
Scientifiques?
Oui.
Homme des lettres, études scientifiques, la littéraire, mais vous n'avez pas tenté, ou bien il n'y en avait pas à cette époque?
Donc, c'est toute une histoire avec les lettres. Parce que moi, j'étais et je demeure un passionné des mathématiques. Mais il s'est trouvé que j'étais un homme très introverti, donc très timide. Et j'avais choisi de m'exprimer par l'écrit. Et comme j'avais un père qui était absent du pays, je lui écrivais souvent. Alors pour écrire, il fallait, j'ai posé la question à un de mes anciens prêtres. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut pour bien écrire? Parce que chaque fois que j'écris à mon père, j'ai l'impression de ne pas bien écrire. Le père m'a dit, il faut lire pour bien écrire. Alors je suis devenu un assidu des bibliothèques, notamment la bibliothèque du Scholastica de Kimwenza. Et un jour, je suis tombé sur les Cides de Corneille. Alors, je lisais sans très bien comprendre. Moi, ce que je cherchais, c'est savoir écrire des lettres. Et entre parenthèses, à force de lire et écrire des lettres, nous sommes dans le cycle d'orientation. J'étais l'écrivain de mes amis, quoi, pour des petites lettres adressées aux petites copines.
Ça pouvait pas manquer, quoi.
Voilà, j'étais l'écrivain public de mes amis. Quoi. Mais après, parce que je suis pris des passions pour un livre, le tout premier que j'ai consommé de bout en bout, c'était les Cides de Corneille. Alors je me suis dit, bon, pour bien lire, comprendre ce livre, il faut que je les recopie.
Et
je
les... Vous n'allez pas me dire que vous avez recopié...
J'ai recopié les livres dans son entièreté.
Non.
Voilà. Et c'est comme ça que la passion de l'écriture est venue à moi.
Didier Moumengui, vous êtes historien, journaliste de formation en politique et écrivain. À quel moment vous décidez de faire le journalisme?
En fait... Le journalisme est venu bien plus tard, lorsque je me retrouve en Europe pour continuer mes études universitaires. J'entre dans la faculté d'économie, administration économique et sociale, jusqu'à la licence. Mais j'avais cette envie d'écrire qui m'est taraudée. Comme je n'aimais pas beaucoup les études littéraires, malgré que j'ai pris des passions pour l'écriture, je me suis dit, bon ben, après mes études d'économie, je ferai le journalisme pour rester dans la passion de l'écriture.
Pourquoi vous n'avez pas fait les lettres, par exemple?
Moi, c'est des mathématiques. Et j'arrive en Europe, je voulais absolument faire médecine ou polytechnique. J'avais deux choix. Sauf que on n'avait pas la chance d'attraper des bourses. Et seules les études d'économie, de droit ou d'histoire permettaient des horaires plus ou moins aménagés pour pouvoir travailler et aller à l'université. On n'était pas boursier. Alors, j'ai choisi l'économie parce qu'il y avait un peu de maths dans l'économie. C'était essentiellement ça. Et voilà, j'ai fait l'économie jusqu'à la licence. Et à l'époque, le journalisme n'avait pas un cursus universitaire complet. Donc, on faisait le journalisme au niveau du deuxième cycle. Donc, il faut avoir fait un parcours universitaire quelconque en droit ou en économie ou en Sciences Po pour pouvoir faire au niveau du deuxième cycle le journalisme. C'est ce que j'ai fait au niveau du deuxième cycle. Je suis allé faire le journalisme après mon diplôme et comme j'aime bien l'audace, j'avais décidé de travailler dans le plus grand journal de France, c'était Le Monde.
Le Monde, oui.
Et je suis allé frapper comme un extraterrestre parce qu'à l'époque, les Noirs travaillaient dans Le Monde, c'était pas évident. Et miracle, on m'a pris. Et c'est là que je commence ma carrière de journaliste.
Vous commencez comme stagiaire pour directement...
J'ai commencé comme stagiaire, je travaillais dans la titraille. Mais après, ils m'ont pris, j'ai commencé à signer des articles, dont le grand article qui, à l'époque, avait fait fureur, Les Mâles Aérois.
Et vous avez travaillé pendant combien de temps dans le journal Le Monde?
J'ai travaillé pendant quasiment un an, parce que les choses se sont très vite accélérées. J'ai signé un papier, Le Mâles Aérois, à l'époque. Nous sommes en 94. 94, je signe ces papiers qui a beaucoup énervé les présidents de l'époque et qui m'a cherché noise dans le journal. Et j'étais obligé de prendre des distances par rapport au journal parce que mon bouton à l'époque était très puissant. Et je suis même vu obligé de quitter la France pour me réfugier en Belgique.
Vous étiez recherché?
J'étais un peu recherché pour me réfugier en Belgique. Et à partir de là, j'ai pris mes distances avec le journal. Et c'est comme ça que s'enclenche l'autre carrière d'écrivain. Durant la même année, en me réfugiant, je me suis mis à écrire et j'ai sorti mon tout premier livre, Esprit des ruptures.
Qui parlait de quoi?
Esprit des ruptures, c'est à l'époque un plaidoyer pour rompre avec... tout ce qui se faisait en politique depuis 65 et ouvrir un nouveau chapitre de la pratique politique dans notre pays.
Vous vous retrouvez en Belgique, vous vous mettez à écrire et c'est là que vous avez commencé à vous intéresser à la politique?
Oui. En fait, c'est l'article « Le Mâles Aérois » qui avait fait fureur à l'époque et qui me précipite dans l'arène politique, en fait. Et cet article m'a permis de me reconnecter avec mon pays et de commencer à s'y intéresser de très près. Alors les ennuis qui se sont répercutés après l'article m'ont encore une fois bien installé dans la chose politique. C'est comme ça que j'ai décidé d'écrire dans le premier livre, Esprit des ruptures.
Et étiez-vous vraiment objectif dans votre article?
Vous avez raison, j'étais idéaliste. Mais un homme m'a aidé à rationaliser mon regard sur mon pays à l'époque. Et cet homme déterminant dans ma vie, c'est l'ancien directeur de cabinet de Mobutu, l'éminent juriste Maître Nimi Maïdika Ngembe. Alors lui, comme beaucoup d'autres politiciens, avait lu l'article. Mais il s'imaginait pas que c'était un jeune homme qui avait écrit cet article. Et que Mobutu recherchait. Il n'avait aucune idée que c'était un jeune homme. Et quand un de mes amis qui fréquentait Maître Nimi lui dit que non, c'est mon ami, c'est un jeune homme. Donc je peux l'amener ici. Il a dit non, je veux bien le rencontrer, ce jeune homme. Et Maître Nimi, dans un de ses voyages à Bruxelles, m'accorde le privilège de le rencontrer. Maître Nimi, à l'époque, il a cessé d'être directeur de cabinet pour devenir conseiller spécial de Mobutu, accepte de me rencontrer. Alors,
Et vous n'aviez pas eu peur?
Non, j'ai pas eu peur parce qu'on était dans un contexte de Bruxelles où j'étais un peu sécurisé, quoi. Donc, et puis mon ami m'avait rassuré qu'il avait d'autres idées plutôt que m'embrigader dans le MPR. Il voulait me voir comme intellectuel à l'époque. Et lorsque je le rencontre, il était tout étonné que je sois aussi jeune. J'avais à peine 30 ans. Et puis il me pose cette question, mais pourquoi cet article? Et moi je lui réponds, maître, cet article, c'est pour me reconnecter avec mon pays. C'est pour redécouvrir mon pays. Alors je vais vous demander un service. Il dit lequel? Que nous écrivions un livre ensemble. Un livre qui me permettra de mieux connaître mon pays. Parce que je ne peux pas aimer quelque chose que je ne connais pas. Et Maître Nimi a accepté. Pendant un an, nous avons écrit ensemble des livres qui s'intitulent « Désir des vérités ». Et ce livre m'a permis de faire une immersion, alors la plus profonde possible, non seulement dans les années Mobutu, mais dans l'histoire, parce que ce livre couvre aussi bien l'histoire du Royaume Congo que l'histoire des années Mobutu.
Voilà. Cela nous permet de parler de Didier Mumengi comme homme politique.
Et le livre est sorti en 96, juste
en 96,
avant.
Juste 96. Avant la chute du maréchal en 97.
Radio Capi, grand témoin.
Didier Mumengi, vous débarquez en 97 avec Laurent Désiré Kabila, avec l'AFDL. Comment avez-vous rencontré cet homme?
Alors, je débarque ici sur invitation du ministre de la Justice de l'époque, le ministre Célestin Louangui, qui me connaissait à Bruxelles et qui pensait que je pouvais être un bon communicant dans son ministère. C'est comme ça qu'il me demande de venir passer un moment pour l'aider à organiser la communication du ministère de la Justice. Alors j'arrive deux jours après, une de mes sœurs, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que je suis le fils de Mumengi, mais le petit-fils de Kemishanga Mathias, qui était très ami à Lumumba. Dès mes 18 ans, mon grand-père Marcel m'avait étiqueté comme son remplaçant dans la bataille politique. Et il m'a donné comme tuteur Bika Kalada pour m'encadrer politiquement, mais aussi spirituellement, parce que Mabika Kalanda, c'était un grand monsieur à l'époque, un grand monsieur, un grand esprit, mais aussi un grand politique. Alors Mabika m'encadrait et m'avait déjà embrigadé dans le mouvement national congolais Lumumba. Alors c'est comme ça que j'ai connu Célestin Louangui et j'ai grandi avec les enfants Lumumba. Et alors que le ministre Célestin Louangui m'avait invité pour organiser son système de communication, deux jours après, Juliana Lumumba est nommée vice-ministre de la communication. Alors dans l'une de leurs conversations avec Louangui, Juliana Lumumba se tient la tête et dit « Ah si, au moins Didier était là pour m'aider parce que c'est lui le grand journaliste de notre mouvement, le mouvement national congolais Lumumba ». Et le ministre lui dit « Non, il est là, je l'ai fait venir, il est là depuis deux jours ». Et Juliana dit « Il sera mon directeur de cabinet ». Et si j'accepte, et c'est comme ça que mon entrée en politique commence par le ministère de l'Information, où je suis directeur de cabinet de Madame Juliana Lumumba.
Qu'à devenir ministre, après porte-parole du gouvernement.
Après, Célestin Louangui me récupère en tant que directeur de cabinet au ministère de la Coopération internationale. Et c'est par la suite que je deviens ministre.
Personnellement, vous ne connaissez pas Laurent Désiré Kabila. Lorsque vous arrivez, vous avez entendu parler de lui?
Non, Laurent Désiré Kabila, c'était une histoire de famille, parce que en 62, lorsque mon père s'exile, ils partent ensemble en exil. Et Laurent Désiré Kabila habitait avenue Sendoué, je crois, Oshoué, à Matongé. Mon père était allé aux deux à Kitampo. Ils ont fui ensemble par Brazzaville en 62. Donc ils étaient des amis.
Lorsque Célestin Luang vous fait venir à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila savait que vous étiez le fils de...
Non, Laurent Désiré Kabila n'avait aucune idée de ma personne. Laurent Désiré Kabila avait vu ma mère enceinte. Laurent Désiré Kabila avait connaissance d'un enfant qui était né parce que son ami Félix Moumengi pleurait la naissance de son enfant sans lui. Ils étaient en exil. Maintenant, je vais vous raconter un peu de mots, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Je suis directeur de cabinet au ministère de l'Information. Nous sommes le 30 juin 1997. Le président doit faire un portrait officiel, parce qu'il est devenu fraîchement président, il n'a pas de portrait officiel. Madame Juliana me demande de chercher un photographe. Moi je dis non, madame, excellence, le portrait officiel c'est un message. Il faut des termes de référence et que le président choisisse quelle trajectoire il veut donner au portrait officiel. Il dit mais alors, note ça rapidement. Je note 5 scénarios de prise de portrait officiel. Alors je donne à madame pendant que le président l'appelle, elle n'a pas le temps de transformer ma note technique en note adressée au président par elle. Elle amène le dossier comme ça et le président consulte le dossier, il dit, ah bon, ah ben je ne savais pas. Et la particularité de Musée, c'était sa modestie, son humilité. C'était un homme qui se remettait en cause tout le temps. Il dit, ah bon, ah ouais, mais qui a écrit ça? Moi, très bien. Il arrive à la fin, il voit D. Moumengi. Alors, mon père s'appelait Félix Donatien Moumengi. Et il signait D. Moumengi. Et moi, je l'ai un peu copié, je signais toujours D. Moumengi. Uh-huh. Mais mon D à moi, c'était Didier. Son D à lui, c'était Donatien. Alors dans sa tête, il dit... Ben,
ça l'a perturbé.
Ça l'a perturbé, il dit, mais c'est mon ami ça, De Moumengi. Il demande à Juliana, mais qui a signé De Moumengi? Juliana dit, c'est mon directeur de cabinet. Il dit, il est où? Il est au cabinet. Musée, sans poser d'autres questions, il se retourne, il demande à ses gardes, allez au ministère de l'Information et prenez-moi cet homme De Moumengi. Alors moi, j'étais tranquillement en train de préparer avec... un journaliste, il voulait m'interviewer sur les livres avec Maître Nimi. On est en train de préparer l'émission et les militaires débarquent. Ils me prennent et moi et mon livre. Dans ma tête, on a découvert que j'ai écrit avec Maître Nimi. Donc, on m'arrête.
Vous avez eu peur?
J'ai eu peur. On m'amène bondé.
En plus.
On m'installe dans une pièce totalement vide. C'était au Palais de la Nation. Une minute après, la porte s'ouvre. Je vois Musée. Je me mets à trembler parce qu'à l'époque, Musée, c'était comme un mythe vivant. Je me mets à trembler, c'est la première fois que je le vois. Et lui, dans sa tête, il ouvre la porte pour rencontrer son ami. Mais il voit un bambin, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, moi, je ne sais pas. On m'a amené ici, j'avais les yeux bandés, je me retrouve ici. Mais qui t'a amené ici? Je dis, mais c'est les militaires qui m'ont amené. Mais toi, t'es qui? Je dis, Didier. Didier, comment? Je dis, Didier Moumengi. Moumengi? C'est toi, Moumengi. Les deux Moumengi, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Mais quel rapport, toi, avec Moumengi? Je dis, mais Moumengi, c'est mon nom. Tu tiens ça d'où? De qui? De mon père. Ton père s'appelle comment? Je dis, mon père s'appelle Donatien Moumengi. C'est toi, Donatien Moumengi. Ton père, tu es né en quelle année? Lorsque je donne l'année, je dis, c'est toi que j'ai vu dans le ventre de ta maman. Allez, viens m'embrasser. C'est comme ça que je découvre Musée, en fait. Et pendant que je l'embrassais, les livres tombent. J'ai tremblé, il ramasse le livre, il dit, mais qui a écrit ce livre? J'ai dit, moi. Tu es écrivain? Oui. Tu as écrit avec cet homme, Maître Nîmes? Il dit, oui. Je disais oui en tremblant parce que, à l'époque, c'était la chasse au Mobutiste. Il dit, ah, Mobutu était entouré par des gens intelligents, notamment celui-là. Tu as bien fait d'écrire un livre. Maintenant, j'ai un fils qui a écrit, donc, tu seras un homme important dans mon système. Et c'est comme ça que j'ai découvert.
Qui vous a adopté.
Il m'a adopté.
Qui vous a nommé ministre de l'Information.
Bien plus tard. Un an plus tard.
En 98, la guerre d'agression éclate. Vous occupiez quelle fonction à ce moment-là?
Alors, la guerre éclate un mois jour pour jour après que je sois nommé ministre de l'Information. Un mois. Je suis nommé début juillet, 2 juillet. Le 2 août, la guerre éclate.
Comment vous vivez ce moment, Didier Moumengi?
Alors, je suis pas très connu. J'ai jamais vu un revolver, encore moins une mitraillette. Je suis chez moi à 4 heures du matin. Le président m'appelle. Il dit, Didier, mon fils, parce qu'il m'appelait toujours fiston, tu dois arriver à la RTNC avant que les agresseurs ne prennent la radio. Je dis, mais président, les agresseurs, c'est qui? Il dit, tu dois arriver parce que s'ils arrivent avant toi, ils vont déclarer la fin de notre pouvoir et notre pays sera occupé. Il faut que tu arrives avant. Alors moi, tout bonnement, un peu inconscient, naïf, je me mets en costume, je prends ma voiture officielle, je vais descendre. À l'époque, j'habitais Binza Pigeon. Je descends, j'arrive vers le palais des marbres, j'attends des détonations. Tout ce que je vois dans le cinéma, je vois des détonations, de fumée. J'ai pris peur, j'ai fait demi-tour. C'est là que l'esprit des guerres va m'habiter. Je me change, je me mets en jogging, je prends la voiture de mon épouse, voiture banalisée, mais j'ai fait les tours de Kinshasa.
Vous étiez seul ?
J'étais avec mes gardes. J'arrive, je vais garer ma voiture chez mes beaux-parents qui habitaient Songololo, juste à côté du stade. À l'époque, Beauvent, c'est une petite brousse. Nous traversons la brousse jusqu'au niveau de la RTNC. Et je trouve l'équipe de la radio avec Semedié, paix à son âme, qui attendait l'ouverture de l'antenne à 6h. Alors, Semedié était le seul journaliste à me reconnaître, parce qu'à l'époque, je ne suis pas très connu. Semedié était un peu âgé, il m'a suivi un peu. Il m'a dit, non, moi je le reconnais, c'est notre ministre, parce que j'étais en jogging. Elle vient te cacher parce qu'il y a des militaires qui tirent vers ici. J'entre, on se cache, on attend 6h. Mais une idée me vient à la tête, il dit, mais s'ils se rapprochent d'ici, ils peuvent nous prendre pendant qu'on enregistre, pendant qu'on diffuse le message. Je sors, vite, en courant, je traverse pour aller vers le camp Kourolo. Je demande au chef de garde qui était là de me donner quelques militaires parce que la RTNC était dégarnie. Il me donne une dizaine de militaires. C'était même cocasse parce qu'il ne me connaissait pas, quoi. Il fallait que mes gardes expliquent, non, non, c'est le ministre, même en jogging, mais c'est le ministre. Il m'a donné quelques gardes que j'ai positionnés au niveau de là où il y a la station essence, juste devant la cité de la Voix du Peuple. Je leur ai demandé de tirer sans sommation, sans se poser de questions, de tirer. Parce qu'entre-temps, par la radio, Mouzé m'informe qu'ils sont au niveau de la mosquée. La mosquée vers Utex Africa. Alors, ils se sont bien tirés, ce qui a ralenti leurs avancées. Et à 6 heures, j'annonce la nouvelle qui a fait le tour du monde, que la RDC était attaquée. Et sans demander l'autorisation du président de la République, j'ai décrété le couvre-feu. Et le président me rappellera pour dire, ça c'est ton baptême de feu, tu t'y es très bien pris.
Ah, c'était pas facile pour vous, j'imagine. Il fallait tout le temps communiquer sur l'évolution, sur la situation du pays. On vous voyait à la télévision en tenue militaire. C'était une décision de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, que vous puissiez vous mettre en tenue militaire.
Non, par contre, Mouzé, par rapport à moi, avait réagi comme un père. Il a voulu me mettre à l'abri parce qu'il avait décidé que Kinshasa devienne une zone militaire et que tous les civils membres du gouvernement devraient être rapatriés à Lubumbashi. Alors, c'est le même jour, j'ai passé la journée au Palais des Marbres. Il dit, je ne veux pas qu'un ministre se retrouve pris en otage par les agresseurs. Alors, je vais demander à tous les membres du gouvernement de se replier sur Lubumbashi et que Kinshasa reste une zone militaire. Il n'y aura que des militaires. Et là, je ne sais comment, j'ai dit à Mouzé, moi, je ne pars pas à Lubumbashi. Moi, je vais rester ici, me battre à vos côtés. Il dit, non, 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 surtout pas toi. Tu es le plus jeune de ministre, tu es mon fils, tu dois être rapatrié à Lubumbashi. Je vais même commencer par toi. J'ai dit, moi, je ne pars pas, je vais me battre. Il dit, tu sais ce que c'est te battre? Tu sais ce que c'est la guerre? Tu as déjà vu un canon, une mitraille?
Sans aucune formation militaire.
Je vais essayer, je vais me battre. Il dit, Mouzé, donne-moi l'uniforme militaire, je vais me battre. En tout cas, je vais prendre le front qui est le mien, le front de la communication, parce que je sais que si le peuple se dresse contre les agresseurs, nous allons vaincre. Et pour que le peuple se dresse, il faut donner le bon message. Il faut qu'il se sente lui-même agressé, concerné au premier chef. Pour ça, il faut bien communiquer. Et moi, je vais prendre ce front-là. Il a dit, d'accord. Tu veux l'uniforme militaire? Il dit, oui. Allez, qu'on lui ramène l'uniforme ici. Je me suis déshabillé devant Mouzé au Palais des Marbres. J'ai mis l'uniforme militaire. Et c'est comme ça que c'est parti.
3 ans après, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau à Kinshasa. Et la veille de son assassinat, vous l'avez rencontré. Vous étiez avec lui à son bureau.
Oui, je l'ai rencontré jusqu'à 1h du matin. Et il était question, là aussi c'est un moment douloureux que j'ai du mal à évoquer. Parce que je l'ai vu toute la nuit, il devait me faire part de son agenda. J'étais pas seulement son ministre de la communication. J'étais un peu plus que ça.
Vous étiez devenu son fils.
Oui, mais figurez-vous que Mouzé avait appelé mon père pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'adopte Didier. Malheureusement, il est ministre, il est populaire. Sinon, je l'aurais appelé Didier Kabila. Donc, Mouzé, c'était pour moi un père. Alors, lorsque il m'appelle ce soir-là du 15 janvier, il me fait part de son agenda. Il avait toujours l'habitude de faire un agenda semestriel de ses rendez-vous internationaux, ses grands rendez-vous internationaux. Donc je devais enregistrer son agenda semestriel et confirmer tous les rendez-vous. Il me fait part de son agenda semestriel et on devait préparer la conférence France-Afrique de Yaoundé. On l'a fait. Et nous avons eu, pendant qu'on discutait, un coup de fil du président Kadhafi, qui lui demande de ce soir de passer par Sirte, en Libye, pour qu'ils descendent ensemble à Yaoundé. Il insistait, il dit, ne pars pas à Yaoundé sans me voir. C'était pendant la journée. Nous avons dit, d'accord, je veux voir comment je vais m'organiser pour rejoindre Sirte avant de descendre à Yaoundé. Alors le soir, le conseiller spécial du président Kadhafi, qui me connaissait, m'appelle moi pour insister, pour demander à Mouzé vraiment de prendre l'avion ce soir-là, de rejoindre Sirte avant Yaoundé. Et moi, à mon tour, je répercute l'insistance auprès du président. C'est vers 20h que le président me dira, les yeux rouges, que je ne peux pas prendre l'avion. J'ai dit, mais le président, vous avez dit oui? Il dit, j'ai comme l'impression qu'on va abattre cet avion. Et s'il faut que je meure, je veux partir seul. Surtout pas avec toi. Parce que si on prend l'avion, tu seras dedans. Il y aura tous mes enfants. Parce que tous ces gardes du corps, ils les appelaient mes enfants. Je veux pas que quelqu'un meure avec moi. Je veux mourir tout seul. J'ai des mauvaises appréhensions sur cet avion. Donc on ne part pas. On partira demain. Alors tu rappelles ton ami, le conseiller spécial. Tu lui dis, je ne peux pas partir. Mais après Yaoundé, nous irons à Sirte. C'est ce que j'ai fait. Et à 1h du matin, avant qu'on se sépare, il me dit, Didier, prends un morceau de papier et un stylo. Je vais te raconter une histoire. Je prends un morceau de papier, un stylo, et le président s'endort. Il se réveille, je crois, 20 minutes plus tard. Il dit, ah tiens, mon fils, tu es toujours là? Je dis, oui, je suis là. Ah, je t'ai pas raconté l'histoire. Je te raconte l'histoire demain. À 1h du matin, il me prend par la main, nous sortons ensemble, et pour la première fois, il me raccompagne juste devant ma voiture. Il dit, demain, tu viens ici à 13h, et d'ici, on prend l'hélicoptère, on va à l'aéroport, et direction Yaoundé. D'accord? Je dis, oui. Mouzé. J'arrive chez moi, à la maison. Il est 1h30. Mouzé m'appelle. Il dit, mon fils, demain, ne viens pas à 13h. À 13h, je veux que tu fasses un meeting au stade pour expliquer toute ma vie, pour dire au peuple congolais tout ce que je fais de ma jeunesse et dans ma jeunesse pour la libération de notre pays. Je t'ai parlé longuement. Tu sais ce que je veux pour cette nation. Tu dis ça dans ton message demain, à 13h. Tu dis au peuple congolais que toute ma vie, je n'ai cherché que le bonheur du peuple congolais. C'est pour ça que j'ai pris les armes alors que j'étais jeune. Et je suis devenu président dans cette obsession, faire le bonheur du peuple congolais. Dites aux Congolais de prier pour moi, pour que j'ai la force de faire ce bonheur du peuple congolais. Et c'est ces messages-là que je tenais ces jours-là à 13h. Pendant que je donnais ces messages, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner.
Vous êtes au stade?
Je suis au stade. Dans ma tête, c'est Mouzé qui me presse, parce que c'était les téléphones spéciaux. On avait un téléphone ligne unique. Je dis, non, c'est Mouzé, mais je dois finir le message qu'il m'a demandé de faire. Alors les téléphones insistaient tellement, j'abrège le message, et je l'abrège quand un des journalistes qui était devant moi, il vit toujours, pour vous poser la question, c'est Kalengai William, tombe. Quand il tombe, ben je profite de cet incident. Il tombe en vomissant, je profite de cet incident pour répondre au téléphone. J'ai commencé par répondre, dit, Mouzé, j'entends la voix de sa secrétaire. Je dis, non, c'est pas Mouzé, il faut que tu viennes. J'ai dit, mais je suis en train de faire, je sais qu'il doit être là. Non, arrête tout, il faut venir. Et j'arrête. Direction Palais des Marbres. Et j'arrive au Palais des Marbres, je vois l'hélicoptère en train de monter. Et je commence à courir en disant, Mouzé, je suis là! Parce que pour moi, l'hélicoptère se rend à l'aéroport. Uh-huh. Mouzé part sans moi. J'étais en train de crier, Mouzé! Et un militaire me pointe un fusil. Il dit, quel Mouzé? J'ai dit, mais Mouzé, on devait partir ensemble. Il dit, non, on vient de tirer sur Mouzé. Il dit, on vient de faire quoi? On vient de tirer sur Mouzé. Là, il part à l'hôpital. C'est pas le voyage, c'est l'hôpital. Et je vais me fondre. Je suis mis à terre. Malheureusement, j'ai commencé à pleurer.
Et lorsque Mouzé vous donnait ces messages à transmettre au peuple congolais, est-ce que vous avez senti qu'il était préoccupé, qu'il avait un problème, qu'il y avait peut-être un danger qui le guettait?
Au fait, c'est après que je me suis dit, mais tout ce qu'il m'a dit, c'était un message testamentaire. J'étais en train de dire au peuple congolais les testaments de Mouzé. Mais difficile de pressentir quelque chose lorsqu'on est dans l'action. Difficile d'imaginer que lui-même pressentait quelque chose. Difficile. J'étais dans l'action. Et quand tu me donnes l'ordre de faire ces meetings-là, je suis toujours dans l'action. Et c'est après que je me suis rendu compte que Mouzé m'avait envoyé, pendant qu'on tirait sur lui, moi j'ai parlé de lui. Et c'était un message testamentaire. Et c'est comme ça que meurt le grand. Je dois vous dire, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens toujours pas. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas fait le deuil de Musée.
C'était un moment difficile pour vous. Je le sens même dans votre façon.
Figurez-vous que c'est la première fois que j'en parle.
Ah bon? Donc oui. C'est une exclusivité radio au Capi. Merci Didier Moumengui de nous faire ce témoignage sur Musée Laurent Désiré Kabila. Lorsque le Musée Kabila décède, on a eu l'impression que vous vous êtes éloigné un peu de la politique.
Oui. Je ne pouvais pas continuer comme si de rien n'était. Je n'avais plus la force de continuer parce que celui qui était devant moi était tombé. Je devais me donner un moment de deuil pour comprendre. Je ne pouvais plus continuer. Je n'en avais pas la force.
Vous avez pris combien de temps avant de vous relancer en politique?
Figurez-vous que je me suis relancé en politique en 2018.
Pas en 2006, vous étiez candidat à président de la République en 2006.
En 2006, j'étais au plus fort de moi. Interrogé par les destins que prenait mon pays, interrogé du rôle que je pouvais jouer. Je me suis dit, bon, il faut que je parle. Et je me suis très vite rendu compte que c'est peut-être pas le bon moment. Les choses n'étaient pas mûres dans ma tête. Je me suis ravisé et pour faire plus
vous
tard.
Vous avez annoncé cette candidature dans la précipitation, sans c'était vous préparer.
C'était pas dans la précipitation parce que c'était intimement et sérieusement étudié. Et ça avait étonné plus d'un parce que c'était un acte mûrement pensé, réfléchi. J'avais décliné un projet de société à l'époque qui avait rencontré énormément d'admiration. Mais c'était pas mûr.
C'est comme ça que vous avez retiré votre candidature.
J'ai retiré ma candidature sur conseil d'un ami de Musée. Le président Bongo m'a demandé de retirer ma candidature.
Vous étiez très proche de Musée, vous étiez son fils presque adoptif.
Quand on a aimé son père, on ne dit pas « j'étais ».
Vous êtes, voilà. Après le départ de Musée, c'est Joseph Kabila qui est au pouvoir. On ne vous a pas senti très proche de Joseph Kabila. Est-ce qu'il y avait un souci? Et même jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui était autour de Musée, on a l'impression qu'ils n'étaient pas très proches du fils, quoi.
Mais peut-être qu'il fallait laisser le fils faire de son expérience, peut-être. C'est peut-être une bonne chose.
Juste ça.
Je crois. Ben, le fils n'est pas forcément le père.
Mais ceux qui étaient à côté du père pouvaient accompagner le fils.
Mais le fils a fait ses choix. Tout le monde n'était pas parti. Certains proches collaborateurs de Musée étaient restés aux côtés de Joseph Kabila. Il a fait ses choix et c'est légitime.
Aujourd'hui, vous êtes sénateur.
Je suis sénateur, oui.
Vous reprenez petit à petit la politique active.
Encore une fois, je me reconnecte à la politique parce que j'avais pris un peu de distance. J'ai commencé à faire une autre expérience, notamment des formateurs, des consultants. J'ai pris à bras le corps ma passion d'écrivain. Maintenant, je me reconnecte à la chose politique.
Avant de parler de votre passion pour l'écriture, Didier Moumengui, on va souffler un peu. Quelle chanson vous ferait plaisir, qui vous ferait penser à Musée?
Beaucoup fort pendant le Congo.
Je m'y attendais. J'avais pensé à ça aussi. Merci à la technique de nous balancer cette chanson, Tokufa pour na Congo.
Batata ba mama bile le botombo la mando kiel koto pene tumba peto kunda mpone kolo na biso kongo kongo Monela eko kavola na biteni ya biso ete di kozwa ba bengi kongo eto na pombe na mai na zamba pe na mabele eto na na bato ya piko ya bwana pe ya mayele panoko ba mekato buna pe tozali panda jamais 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 tokozonga lisusu na bomwe. Angola, Zimbabwe, Namibia, Pensilvania.
Cette chanson, en tout cas, pour le Congo, a une petite histoire.
On vous écoute raconter.
Parce que, à l'époque, Mouzé est à Lubumbashi, n'est pas à Kinshasa. Alors, la guerre se rapproche de Kinshasa, la peur gagne le pays, et je décide de remobiliser, encore une fois, la population à travers cet instrument, la chanson. Et je vais l'écrire quelques mots, et je cherche un génie de la musique, Suzy Kaseya. Sous des bombes, je suis allé chercher chez lui à Limété, en jeep militaire. Je le prends et dis, est-ce que vous avez suffisamment de courage? Il dit oui. Est-ce que vous pouvez venir là où, dans mon état-major? Il a dit oui. Voilà mon texte. Est-ce que vous pouvez les transformer en chanson? Et vous engager comme chef de la composition musicale? Il dit oui. Moi aussi, je vais me battre. Ça, c'est aussi cassé, les maestros.
Ah, c'est votre composition, Tokufa Pona Congo.
Les textes, c'est de moi.
Les textes, oui.
Mais la chanson, la musique, la composition, c'est le maestro Suzy Kaseya.
Ok.
Alors, il prend mon texte. Deux jours après, il me ramène la composition, c'est-à-dire la chanson. Il dit, le défi, c'est que tous les musiciens congolais chantent. Alors, on a commencé à les chercher, lui et moi, chacun chez lui. Et les premiers, c'est Yampanya, paix à son âme, l'éléphant de la musique. C'est le premier qu'on voit et qui donne son accord. Il dit, moi, je vais chanter. Et il dit, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez trouver une tenue à ma taille? J'ai dit, oui, on trouvera. Je suis allé voir, il était médecin militaire. Je le connaissais parce qu'il n'était pas aussi gros que Kabasele Yampanya, que Pepe Kale, mais pas très loin. Il était médecin médical, son nom m'échappe. Et c'est à travers lui que j'ai trouvé la tenue pour Pepe Kale. Et c'est lui le premier qui enregistre après Taboulay et tous les autres musiciens. Le président n'est pas au courant. Et figurez-vous que pour faire cette chanson, ma mère était commerçante, j'étais en panne d'argent. J'envoyais toujours Suzy Kaseya avec des petites notes d'aller voir ma mère pour m'endetter. Après, Mouzé revient. Il revient après Lubumbashi, il revient. Je lui dis, Président, j'ai une surprise. Il dit, c'est quoi cette surprise? Il dit, j'ai une chanson, mais avant de la diffuser, il faut que vous donniez votre avis. Il dit, ok, donne la chanson. On s'est séparés à 2h du matin quand je lui ai donné la chanson. Je pars. 5h du matin, il me rappelle. Il dit, viens, j'ai vu cette chanson de 2h à 5h du matin. Et Mouzé s'est mis à pleurer. Pleurer. Il a dit, tu m'as offert les plus beaux cadeaux de ma vie. Cette chanson, tu dois la diffuser tous les jours. C'est ça la petite histoire.
Merci Didier.
Et si je voulais rendre hommage à ce grand monsieur, maestro Souzy Kaseya, qui est un grand cerveau de la rumba congolaise.
En parlant de Souzy Kaseya, il est d'ailleurs avec nous dans cette émission. On va le prendre au téléphone.
Au téléphone.
Oui, bien sûr, au téléphone. Allô, bonjour.
Bonjour.
Souzy Kaseya, comment ça va?
Écoutez, là vous me prenez de court, mais lorsqu'il est question d'échanger par rapport à la présence du grand homme qui est devant vous, quelqu'un que je garderai toute ma vie dans ma mémoire, je ne peux que me disposer à vous apporter le peu que je pourrai par rapport à vos souhaits.
Voilà. Alors, vous le garderez à jamais dans votre mémoire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie pour qu'il puisse rester gravé dans votre mémoire, Souzy Kaseya?
Vous savez, on ne grave que ce qui est exceptionnel, ce qui sort de l'ordinaire. Ce grand homme m'a donné la plus grande opportunité de ma vie, dans ma carrière bien sûr, vous savez, rassembler les grandes stars de ce pays, les grandes, mais alors le terme doit être considéré dans toute sa dimension, et quelque chose qui m'a permis pour une fois de réunir les meilleures voix de ce pays, de l'histoire musicale de ce pays. C'est lui qui l'a permis. Alors, quand vous avez une telle opportunité, c'est gravé à jamais. Il y a une chanson mémorable qui porte le titre de Toku Fapona Kongo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Il en a parlé lui-même dans cette émission.
Ça aurait été quelqu'un d'autre, cette œuvre n'aurait jamais été réalisée. C'est grâce à lui et à 100% à lui. Vous savez, il m'a mis à la disposition des moyens pour faire ce travail, sans me demander mon adresse, sans me faire signer un reçu. Il connaissait pas chez moi. Alors je ne sais pas si ce type de réaction, ce type de disponibilité se rencontre facilement sur cette terre, je crois pas. Et vous savez, quand les grands esprits se rencontrent, il en jaillit toujours quelque chose de sublime.
Est-ce que Didier Moumengi vous a dit que Mouzé avait apprécié cette chanson? Il lui a même dit que c'était le plus beau cadeau qu'il lui faisait.
Bien sûr. Non seulement que Mouzé lui a dit, Mouzé me l'a dit aussi. Mouzé m'a dit, et d'ailleurs, en le paraphrasant, il y a un truc qui m'a dit, est-ce que le maréchal Mobutu, est-ce que les artistes se sont-ils réunis une seule fois pour lui faire un tel cadeau? Vous voyez un peu? Dans l'histoire de ce pays, il n'y a jamais eu une œuvre patriotique de cette dimension. Jamais.
Didier Moumengi, réaction. Ça vous fait quoi de ce témoignage sur vous?
Ben, je suis tout ému et je crois que nous avons réalisé avec Maestro Souzy Kaseya une œuvre qui restera dans l'histoire. Vous savez, quand vous êtes dans le feu de l'action, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train d'écrire l'histoire. Et cette œuvre se retrouve dans des livres d'histoire, déjà. Il y a un grand écrivain, Joseph Potopoto, qui est aujourd'hui à l'UNESCO, qui a fait une recension scientifique de cette chanson. Donc, Souzy, c'est pour ça que depuis lors, il est demeuré un de mes grands amis.
Merci, Souzy Kaseya.
C'est moi qui vous remercie. Et je suis pris de court, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je salue ce grand homme.
On avait juste besoin de ce petit témoignage. Il a vraiment ému.
Souzy lui-même est un grand homme.
Bien sûr. Voilà. C'est un grand monsieur, Souzy Kaseya.
Vous savez, parmi une de mes grandes inquiétudes est que cet homme puisse disparaître sans transmettre tout ce qu'il a dans ses entrailles.
On va le faire, Excellence.
J'espère. Je demande à Dieu de te garder en vie pour que tu transmettes comme il faut, parce que tu n'as donné que 20 ou 30% de ce que tu sais.
Absolument.
Dans la musique.
Je suis d'accord.
Mais il faut.
On va le faire ensemble, Excellence.
Il faut tout transmettre.
Vous êtes un canal de transmission très fiable.
Merci beaucoup, Souzy Kaseya. Edemo Mengi, l'écrivain, homme de culture. Vous avez plusieurs ouvrages ou œuvres à votre actif, plus d'une dizaine. Hein.
Mon 23e ouvrage s'appelle « Militariser l'agriculture », qui est sorti cette année.
Plus d'une vingtaine d'ouvrages. Vous vous inspirez de quoi, Didier Moumengi, pour écrire vos ouvrages?
Ma principale source d'inspiration, c'est la révolte. Je suis un éternel révolté. Je ne m'explique pas des conditions tragiques dans lesquelles survive mon peuple. Et je m'interroge, pourquoi ça? Et je cherche dans l'histoire des explications pour comprendre ces malheurs qui chevillent au corps du peuple congolais. Ces malheurs qui habitent le peuple congolais comme son ombre. Des fois dans l'histoire, des fois dans l'économie, des fois dans la politique. Je cherche à comprendre et à donner à mon peuple les meilleures explications pour permettre une rupture régénératrice qui permettra à mon peuple, à ma nation, de connaître le bonheur, parce que je crois que ce pays est fait pour donner du bonheur à son peuple. Voilà, moi, mon inspiration, c'est essentiellement ça. Et c'est pour ça que j'ai slalom entre l'histoire, l'économie, la sociologie, et même je suis allé puiser dans l'histoire de la rumba, l'explication de ces trésors que nous avons et qui ne donnent pas à ce pays aussi, en contrepartie, le bonheur que nous sommes en droit d'attendre d'un tel trésor. Nous avons raté les mines. Les mines ne nous ont rien apporté. Je suis dit, mais ok, mais pas la rumba. La rumba doit permettre à ces pays de connaître une économie musicale, une industrie du spectacle. La rumba doit permettre qu'une industrie touristique naisse dans ce pays. On a raté les mines, mais pas l'économie immatérielle. Alors j'ai écrit sur l'histoire et l'économie immatérielle en partant de la rumba.
De la rumba.
C'est comme ça que me viennent mes inspirations.
La rumba, c'est la culture congolaise. Il y a quelqu'un qui a fait un témoignage sur vous, Didier Moumengi, quelqu'un qui vous connaît bien.
C'est vrai?
Oui, qui nous a parlé un peu de vous. On va l'écouter. Vous allez le découvrir avec nous.
L'ami Didier. C'est comme ça que je préfère l'appeler l'ami Didier. C'est un ami, de la culture surtout, un homme de la culture. Et c'est peut-être par là que tout commence entre lui et moi. Il était encore au ministère de l'Information. D'ailleurs, je me demande, ça c'était à l'entrée de l'AFDL. Hein. D'ailleurs, je me demande pourquoi on l'a mis seulement au ministère de l'Information, parce que je crois que le ministère qui lui va vraiment bien, ce serait le ministère de la Culture. Voilà, en parlant culture, je l'ai connu aussi grâce à l'Espace à suivre, qui était un centre culturel à ma campagne, avec la CRIA. Donc c'était un centre où on essayait de montrer un peu l'excellence de la culture. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment en binôme avec Monsieur Henri Mova. Donc il venait, il me voyait souvent, on discutait beaucoup, beaucoup de la culture. Ils étaient tout le temps avec moi. Et pour parler spécialement de l'amitié, il était tellement présent à l'Espace à suivre que je me rappelle une fin d'année, comme ça, je crois que c'était le 31 décembre, je me rappelle plus de la date, et eh ben il était avec nous. On a invité des orphelins qui sont venus. Il a sacrifié, au lieu de passer sa journée de la fête de fin d'année avec sa famille, donc il est venu le passer avec nous et les orphelins au centre culturel. Et c'était là, je pense que c'était quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il était là, on a cuisiné ensemble, il a mis la main à la pâte, comme on dit, et on a distribué, on a servi ses enfants. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ces enfants-là, ils vont garder un souvenir intarissable de cette journée. Alors, je voulais dire un peu, je crois que s'il va falloir commencer par savoir qu'est-ce qu'il y a, parce que là, je ne peux pas dire si ce sont les défauts de ses qualités ou la qualité de ses défauts. Il n'aime pas attendre. Didier n'aime pas attendre quand il est en rendez-vous, il n'aime pas attendre. De l'autre côté, Didier est très fidèle en amitié. Même si vous arrivez à vous brouiller, il garde l'amitié en fond. Avec l'ami Didier, qui est aujourd'hui sénateur, qui a toujours été excellent, il porte bien son nom Excellence, parce qu'il est dans la culture de l'excellence. Pour une chanson que je lui dédie, si vous pouvez trouver pour lui la chanson Monansuka, 12 enfants, ce serait vraiment une très bonne chose. Alors, à toi Didier, à toi Excellence. À suivre.
À suivre. Merci beaucoup. Vous avez reconnu?
Ben, bien sûr.
Barli Barouti.
C'est l'ami Barli Barouti.
Ouais, vous êtes très ponctuel. Vous n'aimez jamais le retard. Vous êtes très fidèle en amitié. Il vous dédie la chanson Monansuka. En échangeant avec lui, il m'a dit que ça vous rappelle beaucoup de choses, cette chanson.
D'autant plus cette chose merveilleuse. Je suis le Monansuka de ma mère.
Ah, ok. Ah, il m'a dit, posez-lui la question. Ça va lui rappeler beaucoup de choses, quoi.
Énormément de choses, oui.
Soko kuma bui papa, ah mwana tika, yomoko yebi mukuma nangai, dango na zalaka, tika baseka na bangoli kambute, atandele ndamba kuyukila ngamawa, lokola pena kutani na mbuta makiesha za kulinga sali shangai, na kukuma bemutu, yeye mokilingele, yeye mokilingele. Tambula malembe na mokilio, tambula malembe mama, tambula malembe na mokilio, tambula malembe mama, tambula malembe mama, tambula malembe na mokilio, tambula malembe mama, tambula malembe na mokilio, kongolo ve palado, tabela ngambongwe mama. Saki na kosenga yonzala mingi, talele kinga yo bandekwe. Saki na kosenga yonzala mingi, talele kinga yo bandekwe. Nazalaka na bana lukula yo, basila na kokufa e mama. Nabuta kabane mama, jumi na mibale mama. Na falanse babengi tujwa mfan. Leli lele, mama. Leli lele, mama. Leli lele, mama. Mwana libusu ampufangae, azalaka ingenyere na jekamine. Mwana mibale akufangae, abaluka na bwatu talafika. Mwana misato akufangae, akufa na maladi ya tetanose. Mwana misato akufangae, akufa na maladi ya tetanose. Leli lele, mama. Leli lele, mama. Oyo ya mine ya ndumba, azwaka kisi ya domination. Oyo ya mine ya ndumbe, azwaka kisi ya domination. Wabalula kayena mibali bandekwe. Ikunya ya baninga peba kwazo na ye. Leli lele, mama. Leli lele, mama. Mwana mitano akufangae, abela kamaladi ya koshokore. Mwana mitano akufangae, akufa na maladi ya koshokore. Leli lele, mama. Leli lele, mama. Mwana motoba akufangae, azalaka ambiansere mama. Etumba baby makana bare, babula kaya butei ya pulumuswe. Leli lele, mama. Mama. Leli lele.
Merci Barley pour ce témoignage. Didier Moumeng, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était vraiment un plaisir, un réel plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Est-ce que vous avez un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent partout en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocapi.net, mais aussi grâce à Canal+, Channel 572.
Oui, à tous mes compatriotes, je voudrais insister sur une chose. N'oubliez jamais que si Dieu vous permet de rêver, c'est qu'il vous donne un plan de vie. Ne méprisez jamais vos rêves. Moi, j'en avais deux. Le premier rêve, c'était de devenir ministre. Ce rêve m'a habité depuis ma jeunesse. Depuis que j'étais en classe de premier CO, on m'appelait déjà ministre de l'information. Mon deuxième rêve, c'était non seulement devenir écrivain, c'est qu'un jour rencontrer l'auteur du premier livre que j'avais acheté. Ce livre s'appelait Les Aïrs, que j'avais acheté avec mon argent. Et l'auteur de ce livre, il s'appelait Théophile Obenga, parce que j'étais un groupie, un adepte de Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop étant mort très tôt, celui qui venait juste après Cheikh Anta Diop, c'était Théophile Obenga. C'était mon rêve de le rencontrer. Et j'ai réalisé ce deuxième rêve. Non seulement je l'ai rencontré, mais il a baptisé deux de mes ouvrages en disant que c'est Didier Moumengi est un grand écrivain. Alors ne méprisez jamais vos rêves. Il faut toujours aller au bout de ses rêves.
Merci Didier Moumengi, grand témoin, c'est fini. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise de son, présentation Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous.